Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU carré petit utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, des projecteurs gratuits, votre identité en libre service, une PlayStation 5 sous Linux et un nouvel agenda tech sur Toulouse. Notre invité est Thomas Bonon, mainteneur de Toulouse Tech Hub. L'équipe aujourd'hui, Daskritch, Gabriel, Benoît et Enflammé. Ok, on y go.
CPU carré petit utile.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et on retrouve Thomas Bonon tout à l'heure pour l'interview. En avril dernier a eu lieu à Las Vegas la CinemaCon, un salon professionnel annuel destiné aux exploitants de salles de cinéma. Au programme dans le centre de conférence Coliseum du Kaiser Palace, au fond après les bâtiments chauds, des avant-premières, des présentations de nouveaux matériels et des discussions professionnelles. Un grand raout où le banc et l'arrière-banc des exploitants de salles du continent nord-américain, petites salles et chaînes de multiplex, découvrent des bandes-annonces, rencontrent des stars et s'extasient devant des solutions de billetterie en ligne ou des éclateurs à pop-corn. Une conférence corporate présentée par Tom Rothman, le président de Sony Pictures, a fait parler plus largement que prévu. On va même dire qu'elle m'a donné des hoquets de rire nerveux. Qu'a dit le patron de la major pour susciter de telles réactions ? Il a enjoint les exploitants de salles d'arrêter d'infliger en début de séance avant le film des tunnels de pub de 30 minutes. Plus exactement, il a dit « Get off the ad crack », arrêtez de vous shooter aux pubs. Ben oui, bande de drogués, c'est vrai que 30 minutes de pub et de bande-annonce avant le film Spider-Man, c'est très long, surtout quand on ne peut pas zapper à la différence de TF1, enfin presque. Tom Rothman remarque que ces espaces pubs ne sont plus aussi impactants puisque, depuis que l'ensemble des salles de cinéma attribue un siège précis à chaque ticket vendu pour faire payer les places centrales plus chères, ben le public se pointe 25 minutes après le début de la séance, juste avant le film, pour ne pas subir la diarrhée commerciale. C'est vrai quoi, tu paies déjà très cher tes lunettes 3D. Le fait que la projection soit faite en pseudo IMAX et que tu sois au plus près du point focal des haut-parleurs Dolby, alors on va pas se laisser emmerder par des pubs des restos du centre commercial et du vendeur de voitures d'occasion. Pour exaucer ce vœu, le patron de Sony Pictures promet aux salles de cinéma que ces blockbusters n'arriveront que bien plus tard sur les services en ligne. Car si la chronologie des médias en France ne permet à Canal+ et Netflix de diffuser un film récent qu'au bout de 8 à 12 mois, aux États-Unis, le Blu-ray et la mise en ligne arrivent généralement 3 mois après la sortie. J'en reviens à mon rire nerveux. Sony a largement profité de cet espace publicitaire d'avant-film pendant 15 ans, très largement, au point d'offrir les projecteurs aux exploitants. Pour comprendre la blague, il faut comprendre l'histoire récente de cette industrie et la révolution de la projection numérique. En 2009 sort enfin le film Avatar de James Cameron, un film annoncé comme blockbuster spectaculaire, mais qui n'était disponible pour les salles de cinéma qu'au format numérique, lunettes 3D oblige, poussant les exploitants commerciaux à abandonner leurs poussiéreux projecteurs argentiques. Ce qui demandait d'installer un équipement tout nouveau, baie technique de serveur NAS, serveur de pilotage, projecteur numérique, objectif polarisant 3D, ampli son, et chaque film accordé exactement au numéro de série de chaque équipement via une gestion très parano des DRM. Oui, l'industrie hollywoodienne est à l'époque ultra parano sur le piratage. Rien n'a changé. Vous aimeriez, vous, que le film « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu » avec Christian Clavier se retrouve gratuitement sur le net ? Non, bien sûr ! Quelle horreur ! À l'époque, le groupe Sony occupe une position très particulière. Ils sont dans les jeux vidéo, les séries télé, la musique, ils sont producteurs de cinéma avec un catalogue percutant, ils ont leur gamme matérielle grand public, mais ils ont surtout une gamme professionnelle ultra réputée, aussi bien sur la production qu'en matériel broadcast, et surtout pour la projection cinéma sur matériel numérique. Profitant de l'annonce du film 3D Avatar par James Cameron et 20th Century Fox, Sony a fait le tour des multiplex cinéma en Amérique du Nord en proposant le deal suivant. Un équipement dernier cri à leurs frais contre des minutes gratuites de pub avant chaque séance sur plusieurs années. En fait, c'est un ensemble de contrats qui sont signés, notamment avec les groupes de multiplex et les ensembles régionaux de petits cinémas. Vous signez un contrat d'équipement et support avec Sony Electronics Digital Cinema Solutions and Services, mais vous ne la payez pas en numéraire. Pour éviter d'avoir à vous surendetter ou de faire une levée de fonds toujours désagréable auprès des actionnaires quand on est très peu rentable, vous vendez des espaces publicitaires à l'ensemble du groupe Sony sur plusieurs années, d'un même montant que le premier contrat. Simplement en ajoutant des minutes de pub avant séance, tout en garantissant la valorisation établie de ces espaces pub. En termes business, l'exploitant cinéma contracte une LOA, location d'achat en longue durée, et rembourse par un paiement en valeur de service par un contrat publicitaire. Le vendeur fait l'avance du paiement et est remboursé par un jeu comptable de la compensation entre filiales plaçant des publicités sans qu'aucun flux financier réel n'ait lieu. La division matériel pro est valorisée, mais les pubs valent moins cher qu'en achat réel. À l'échelle du groupe, l'idée est absolument géniale. 2009 pour Sony, c'est une grande campagne marketing globale, Make Believe. Et c'est aussi une exposition monstrueuse de chaque branche du groupe. La division Telebravia, la division jeux vidéo pour la PlayStation 3 et les jeux, la division smartphone, la division film Columbia, la division musicale Sony Music Entertainment, les chaînes câblées Sony.
Believe that anything you can imagine, you can make real. Make.believe.
Toutes ces divisions, quasi toutes ultra rentables, ont très vite amorti le matériel offert aux exploitants. Matériel acheté en interne au prix fournisseur contre une place d'espace premium dans le cerveau d'un public captif face aux concurrents. Bah oui, parce que quitte à être un groupe qui touche à autant de métiers, vous vous doutez bien que les autres filiales n'allaient pas payer le matériel offert aux exploitants locaux au prix affiché dans le catalogue. Aucun autre groupe industriel ou du divertissement n'était alors en mesure de faire ça, car aucun concurrent n'avait une telle palette d'activités aussi bien pro que très grand public, et surtout en étant ultra rentable. Quant au grand public, il n'a pas à décider du choix du matériel à acheter pour regarder son film, c'est le business de l'exploitant cinéma. Ah oui, ces pubs Sony seront présents avant chaque séance pour tous les films, même ceux des concurrents. Tu te doutes bien que Sony a des accès en remote sur leur baie technique pour voir s'il y en a qui filoutent avec leurs obligations. Le CinemaCon se déroule à Las Vegas, capitale mondiale du poker. Le groupe Sony avait les meilleures cartes, ils ont fait all-in. Et les retombées sont réelles. Vous vous souvenez du format HD-DVD de Toshiba et Microsoft ? Ben non, Sony l'a explosé en partie grâce à ce rouleau compresseur de pub au cinéma malgré une PlayStation 3 considérée comme chère à l'époque. Et ceci en passant le parc des projecteurs cinéma au format 4K de 300 salles à 3000 salles en moins d'un an, enfonçant leur principal concurrent, Texas Instruments. Et pour le spectateur, le visionnage obligé mais consenti de la pub Bravia avec ses 25 000 balles colorées dévalant une rue de San Francisco, ou les nouveaux gizmos touchés par Daniel Craig dans Quantum of Solace, tindindin, par les hasards du placement produit, le spectacle est total. Pour les exploitants de salles, c'était une aubaine et quasi tous ont accepté ce deal, mais ils ont dû payer la formation de leur personnel, souscrire au support pro et évidemment prévoir le renouvellement du matériel à la même marque. Joie des DRM. Il faut comprendre que les exploitants cinéma américains ne touchent quasi rien sur la vente de tickets, que leurs frais et salaires sont surtout payés par la vente de confiseries, boissons et pop-corn. Le sel, la ligne blanche qui a rendu accro les salles de cinéma, titré le Financial Times dans un article que je ne retrouve malheureusement plus. Mais je vous renvoie à un excellent dossier des Échos. Pour en revenir aux exploitants de salles américains, ils paient même pour avoir la primeur des blockbusters durant la première semaine d'exploitation face à leurs concurrents locaux. Inutile de vous dire que l'économie d'une salle de cinéma est extrêmement précaire et cette santé ne s'est pas arrangée depuis avec le Covid. Donc cette offre en or de rééquipement par Sony pour passer au numérique était impossible à ignorer pour les salles d'Amérique du Nord. En France, le modèle fut différent, puisque le CFC, le Centre Français du Cinéma, a aidé financièrement les salles de cinéma à s'équiper en numérique, aide financée grâce à leur taxe sur chaque ticket de séance vendu. Quant aux besoins pour ces établissements de support en ligne pour le renouvellement matériel, la raison est que le cinéma au format numérique est encombré de DRM d'absolument partout, avec des incompatibilités ubuesques. Il était au début impossible d'utiliser le même fichier pour projeter un film dans une salle à côté, jouer l'appariement des pièces. Si les numéros de série de l'ampli son ou l'objectif du projecteur ne correspondent pas à la gestion des droits d'utilisation du fichier du film, impossible de le projeter ce film. Et donc, nique ta séance, rembourse les tickets. Ça, les exploitants cinéma ont très vite compris qu'ils avaient absolument besoin d'un SAV unique, donc d'une marque unique pour tous leurs dispositifs de projection. Du coup, ça sera Sony Electronics Digital Cinema Solutions and Services, DCSS, qui proposait une intégration jusqu'au Theater Management System. Et évidemment que les incidents de diffusion ressemblent énormément au foutoir des DRM des tracteurs John Deere, celui qui te pourrit la semaine pile au moment où un agriculteur doit impérativement récolter dans les 48 heures ses champs, hein ? La rumeur veut qu'il soit plus facile d'installer Android sur iPhone ou de démarrer un chasseur F-35 que de projeter le film Avengers First Assembly dans une salle où on a changé le masque LCD détruit par l'intense rayonnement UV de la lampe. Si, si, les premières années en projection numérique furent très épiques. Pour en revenir donc sur ce deal qui a été systématisé en Amérique du Nord, cet achat indirect massif d'espace pub a été le grand coup du groupe Sony sur une décennie et qui a fortement consolidé les synergies de ce groupe tentaculaire. Entre-temps, en 2020, nous avons eu à la fois la crise du Covid, qui a rendu encore plus fragiles les exploitants, et Sony qui a arrêté la construction de nouveaux modèles de projecteurs professionnels par lampe, essayant de se relancer dans les projecteurs laser et les très très grands écrans LED. Un pari perdu. Donc inutile de dire qu'après la sortie à la CinemaCon par le patron de Sony Columbia Pictures, patron qui est en poste depuis une bonne dizaine d'années, ben, ça supplique aux exploitants de salles qu'ils réduisent la durée du tunnel de pub avant de projeter un film me fait immensément rire. Et à traiter les exploitants comme des drogués, il oublie que la première dose de sa maison mère fut gratuite. Oui, y a pas à dire, Sony est capable d'être bien plus drôle en une seule réplique que l'ensemble du dernier film Astérix. Et au Caesar's Palace en plus. Bon. On a bien ri, mais dites-vous qu'en France, QGC, Mediavision alias Jean Mineur, Banijay, Dailymotion, Gameloft, OCB, Editis, Universal Music, Relay, Hachette, Ciné+, Europe 1, Canal+, tout cela est aux mains d'un actionnaire minoritaire mais décisionnaire, un Breton qui pourrait avoir une stratégie équivalente, et il a à vendre un projet politique. Comme le fait remarquer Bolchegeek, méfiez-vous quand une grande entreprise contrôle trop vos imaginaires. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre première édition de News pour mai avec l'ensemble de la rédaction Benoît Ida Scritch.
Bonjour. Eh mais c'est pas du Front 242 ça ?
Bah oui, mais j'ai pas pu lui mettre le morceau dans l'émission de la semaine dernière, release EX242, parce que les Belges... Ils sont plus frites que pâtes.
Et ils sont où, tout fait Gabriel ?
Suspendu. Pendant la répétition des news, ils en sont venus aux mains. Envoie.
Friend, le collier IA qui écoute en permanence ce qui se passe autour de vous s'est payé une énorme campagne de pub dans le métro parisien pour son lancement en Europe. Avec un tout petit souci, ils ont oublié le RGPD. Ce collier écouteur ne sera finalement pas lancé en Europe. Une campagne de pub bien facturée, bravo la RATP.
C'est plutôt rare, une boîte paie une publication pour produire un infomercial, un film publicitaire long, en format documentaire, non pas pour se donner le beau rôle, mais pour parler de son rétex sur les situations désastreuses. Le Bon Coin a fait une collaboration commerciale avec Les Échos pour raconter dans une série documentaire leurs soucis, comme comment ils se sont fait crypto-loquer.
John Deere, le roi américain du tracteur, le créateur du DRM par appareillement matériel agricole, s'est pris une douille à 99 millions de dollars dans une class action aux États-Unis. Le jugement leur impose aussi de fournir les outils numériques pour la maintenance, les diagnostics et la réparation pendant 10 ans. On avait expliqué en 2018 l'importance de la scène des hackers ukrainiens pour les fermiers américains.
Incroyable ! La plupart des licenciements massifs dans le monde effectués sous prétexte d'IA ne sont pas dus à des gains de productivité attendus avec l'IA, car l'IA ne serait qu'un prétexte. Ah bah ça, ça me les coupe, et pas que dans les masses laborieuses. Et en plus, ce sont des patrons eux-mêmes qui l'avouent.
Oracle a annoncé en mars virer 18% de ses 162 000 salariés. Donc 30 000 humains se retrouvent sur le carreau. Le prétexte ? L'IA. Attendez, le prétexte est qu'il manque de cash pour construire ces giga data centers pour OpenAI. Nuance ! Fallait pas tenter de racheter Warner après CBS. Fallait pas.
Avez-vous remarqué que le taux d'incident chez GitHub a explosé depuis octobre 2018 ? Très exactement depuis l'acquisition de la forge logicielle par Microsoft. Damelson sur GitHub a récupéré les stats des taux de disponibilité chez GitHub sur 10 ans et les a mis en graphe, sûrement pour convaincre son patron de passer son cloud chez Microsoft Azure ou de rester sous Windows.
Malgré nombre de procès perdus, Microsoft retente d'obliger les utilisateurs de Windows à n'utiliser que leur moteur web Edge. Pour cela, il joue sur le fait que Copilot ne respectera jamais votre choix de navigateur alternatif si vous lui posez une question. Rien ne semble pouvoir changer leur culture d'entreprise.
Très chouette interview proposée par le youtubeur Seb Fritt. 10 ans après la création de sa chaîne mythique, le papa de la Lo-Fi Girl parle enfin et raconte comment un canal de mixtape sur YouTube est devenu un phénomène mondial tout en assurant aux musiciens une juste rémunération financière. Rien que pour cette dernière raison, abandonnez Spotify si vous y êtes encore, surtout que Spotify nous censure.
Une professeure d'allemand de la Cornell University à New York souhaitait que ses étudiants aient moins recours à l'IA pour rendre leurs devoirs. Elle leur a fait abandonner leur laptop en interro pour passer sur des machines à écrire. Imaginez le choc de la génération smartphone d'apprendre à glisser le papier dans le rouleau, taper sur les touches, tirer le retour chariot et les joies du blanco pour corriger. Pour écrire en allemand.
J'ai plus vite appris la dactylographie.
Oh ?
Sur une Remington 12 de 1933. Belle machine. Ouais. Et j'ai arrêté l'allemand au bout d'une heure.
Ah, grosse malheur !
Claude Mythos, la nouvelle version de l'IA générative orientée code d'Anthropic, impressionne par le nombre de failles réellement critiques qu'il découvre. Mozilla y a eu un accès en avant-première. L'outil a permis de découvrir 271 vulnérabilités problématiques qui ont toutes été corrigées dans Firefox 150, une version exclusivement consacrée à ces corrections. D'autres logiciels open source ont fait de même, comme VI, Emacs et bien évidemment le kernel Linux. On parle de lui justement la semaine prochaine.
Klubik raconte dans un papier assez comique que les développeurs de Meta préfèrent utiliser les IA des concurrents, Claude d'Anthropic, GPT d'OpenAI et Gemini de Google, plutôt que Llama, la solution maison. Ils font même un concours de celui qui cramera le plus de tokens dans le mois. Pas très écologiquement responsable ? Bah oui, en fait, il y a une tendance actuelle de management dans la plupart de la Silicon Valley, dite token maxing. Les ingénieurs sont supposés dépenser en tokens l'équivalent de la moitié de leur salaire pour prouver leur efficacité. Je crois qu'on peut parler d'une métrique à la con.
Qu'y a-t-il dans le Marcel de Claude ? La fuite involontaire de leur code source en mars dernier montre beaucoup sur comment est conçue l'IA de dev actuellement la plus performante. Spécial bonus pour la regex sur les gros mots.
Pour deux personnes qui pèsent dans le dev chez Microsoft, Mark Rusinovich, CTO d'Azure, et Scott Hanselman, vice-président technique sur Microsoft Core AI, GitHub, Windows, pas de doute, l'IA nique les jeunes. Sans nouvelle génération de devs qui se passionnent pour vraiment coder, on va vers une fracture de l'industrie informatique. Sans déconner !
Oh là là ! Pendant ce temps, on se battra pour trouver une entreprise correcte qui aura encore gardé de l'humain dans les ressources humaines. Selon Sky News, 40% des chercheurs d'emploi au Royaume-Uni ont abandonné ou considèrent abandonner une candidature suite au recours par le recruteur à l'IA durant la procédure de recrutement.
Anthropic bloque ses API, notamment pour la solution OpenClaw. Cela veut dire que si vous utilisez la solution open source de workflow par IA, vous n'avez plus accès à Claude. Et il est probable que cette fermeture ne soit que le début du mouvement vers des écosystèmes propriétaires et monomarques. Cela ne va pas du tout simplifier votre travail.
Dev assisté par IA toujours. GitHub va nous faire payer l'assistance IA de ChatGPT, le fameux copilote. La fin de l'IA gratuite. Sam Altman avait pourtant prévenu en début d'année son boulot et que l'intelligence soit une commodité à louer pour les entreprises. Ça fait comment de payer très cher un forfait pour réfléchir ?
Suite à cette augmentation, on a lu sur le subreddit de GitHub Copilot
« Le code agentique est tellement cher qu'à présent, il est sûrement moins cher d'apprendre à coder. »
Ce qui nous amène à notre grand jeu.
Stop.
Il vaut mieux enlever les lunettes.
Ah ouais, pas con.
Je te tiens, tu me tiens par la facturette. Le premier de nous deux qui chouinera aura une baffette.
Pardon. Excuse-moi.
Mais j'ai pas chouiné, j'ai ricané.
Oui, mais je sais, le réflexe idiot, je crois que Touf a fait pareil tout à l'heure.
Elle est championne régionale de baseball, non ? Gabriel a dû prendre cher.
Toutes les sources sont sur la page web des news de cette release, cpu.pm/243. Les infos reviennent après d'autres minutes dérisoires. Le 27 avril dernier, un jailbreak de la console PlayStation 5 exploitant une vulnérabilité qui venait d'être corrigée par Sony permet d'ouvrir le système et de booter dessus Linux. C'est assez amusant les relations entre Sony et Linux. La PS2 avait un kit officiel Sony pour y installer Linux, la PS3 a d'abord été vendue pouvant booter nativement sous Linux avant que Sony n'en bloque la fonction. La veille de la sortie de la PS4, un patch au kernel Linux par Sony décrivant le driver intégral de la manette DualShock est accepté par Linus Torvalds. Bref, Sony a toujours voulu aller vers le logiciel libre, mais serait freiné à cause de son business model, à savoir hardware et logiciel verrouillé. En lisant les infos sur le nouveau jailbreak de la dernière console de Sony, pour une fois, j'ai voulu gratter plus loin sur le sujet. Sachant que je n'ai pas de PlayStation 5 à sacrifier pour expérimenter. L'idée de la faire booter sous Linux est de transformer la console star de Sony en PC complet de jeux très performant à un prix nettement intéressant, à une heure où les composants comme les GPU et la RAM sont actuellement hors de prix, merci l'industrie de l'IA générative et surtout les spéculateurs. Alors une machine à 400€ avec 8 cores CPU, 16 threads, tournant à 3,5 GHz et un GPU à 2,23 GHz avec 16 Go de RAM en DDR6 offrant l'une des plus grosses bandes passantes mémoire du marché, c'est tout aussi intéressant pour faire tourner Cyberpunk 2077 en ray tracing que pour dessiner des illustrations avec Krita tout en écoutant Radio FMR en streaming. Le problème de ce nouveau jailbreak reste le même que le précédent. Il faut une console qui n'a pas été mise à jour depuis un bail, c'est-à-dire depuis son achat il y a plus d'un an, ce qui relève de l'exploit car désormais Sony force les joueurs à se connecter tous les 30 jours. Et ce jailbreak n'est pas permanent, c'est un soft mode. Si la console est éteinte électriquement, il faudra à nouveau faire la manœuvre. Installer une clé USB soigneusement préparée, brancher en réseau isolé la PS5 vers un petit serveur DNS, faire quelques manœuvres dessus et reconfigurer un Linux dedans. Les jailbreaks et les consoles de jeux, c'est une vieille partie ludique chez les amateurs éclairés et une guerre totale et sans merci chez les constructeurs. Et quand je dis console de jeux verrouillée, le niveau de protection disséminé un peu partout dans le hardware, le firmware, le système d'exploitation, les jeux et la connectivité réseau dans une console de jeux moderne est absolument intimidant. C'est largement mieux protégé contre les intrusions que votre ordi ou votre smartphone, ou même que les serveurs de l'État. Sauf que pour les constructeurs, l'intrus, c'est le client, et que des gens décident de chercher un moyen de router une console, trouvant les failles au petit bonheur la chance, en passant par le navigateur web ou un nom de fichier dans une clé USB. Cela montre l'énormité de la difficulté, mais aussi que par la complexité d'une console de jeu, la surface d'attaque présentera toujours une faiblesse. Il y a des jailbreaks rigolos. Par exemple, Wii Mac, sorti lui aussi en avril 2026, fait tourner une Nintendo Wii avec Mac OS X, le système d'exploitation d'Apple qui est aussi fermé que le matériel de Nintendo. Double nick pour des performances très très dérisoires. Hein. La Wii, c'est un Power PC de 2006 à 730 MHz et qu'avec 64 mégaoctets de RAM. Mais l'occasion de rappeler que rien ne vaut la passion de milliers de gens très calés techniquement et qui ont beaucoup de temps libre pour défoncer joyeusement les décisions purement business qui tentent de cadenasser le consommateur. Toute sécurité tombera forcément. Toute. C'est un secret de polichinelle que depuis la NES de Nintendo, les consoles de jeux sont vendues à perte et que Sony vend des configurations très musclées au moment de leur sortie afin de tenir le choc de leurs 7 années de vie commerciale. C'est une des raisons qui a motivé Sony à retirer la possibilité native de booter la PlayStation 3 sous Linux. Des data centers sont montés à vil prix avec la bestiole et donc en partie aux frais de Sony. Mais par contre, jailbreaker ce type de matériel est très compliqué. Et une fois presque libéré, l'usage est ultra contraignant. C'est justement le cas de celui de la PS5 dont je parlais au début. Il faut monter un réseau privé isolé, le temps de jouer l'exploit et d'éviter que la console ne s'éteigne. Sinon, elle retombe dans son OS de base et fera peut-être une mise à jour qui tuera toute possibilité de rejouer ce jailbreak. On est vraiment sur des contournements de passionnés éclairés. Mais après tout, puisqu'on a une base d'architecture AMD 64 Ryzen, on peut en faire un PC plus qu'intéressant. Si on se débarrasse complètement du firmware Sony, même en concédant une perte de performance, il y a toujours moyen d'en faire une machine intéressante, en se basant sur sa puce centrale, l'APU qui réunit CPU, GPU et mémoire vive. A-t-on une source de l'APU de la PS5 sans passer par la console? Eh bien oui. En m'intéressant au monde des routeurs de PS5, je découvre la scène des AMD Ariel, l'APU de la PS5, plus exactement les puces déclassées avec un ou deux cores défectueux. Des PC de gamers très raisonnables à prix cassé peuvent donc être construits autour de ces cartes serveurs très spécialisées au format Blade, référence ASRock BC250. Pourquoi de telles cartes existent? Il faut comprendre comment sont gravées les puces de nos engins numériques. Quand un fondeur genre TSMC fabrique à une finesse aussi petite des circuits intégrés, il le fait dans des salles absolument stériles, vides de toute poussière et sur des substrats d'une pureté absolue. Qui n'est pas de notre monde, il y aura toujours une poussière 100 fois plus petite que le diamètre d'un cheveu, mais 10 fois plus grande qu'un transistor. Et le wafer, le disque support de silicium, aura beau être très 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 pur, on aura toujours des accidents dans son cristal. Il se peut aussi que la machine qui grave le wafer ait un léger défaut d'équilibrage, supérieur à la longueur d'onde ultraviolette du laser de gravure, ou que la couche vaporisée de métal soit légèrement imprécise par endroit. Ce taux de déchets a tendance à baisser avec le temps, grâce à l'amélioration progressive du processus, mais il n'est jamais nul. C'est pour ça qu'à la découpe des puces gravées sur un wafer, les fondeurs pratiquent test et tri. Les cœurs fraîchement fondus sont testés en sortie de gravure avec une batterie de test pour détecter si un transistor ne bascule pas proprement ou si une ligne data est parasitée par une voisine, invalidant qui le MMU, là un corps du CPU ou des primitives accélératrices graphiques. Et les puces recalées sont... on ne va pas les jeter, on a démultiplié le nombre de corps dessus. Il suffit d'isoler les corps qui ne sont pas OK, on les vendra moins cher et moins rapide ailleurs. Il suffit juste de garantir les performances minimales. Un peu comme des vêtements dégriffés. Ici, on parle de CPU binding. On trie les puces sortantes par qualité, comme l'agriculteur trie par calibre les légumes cueillis et les revend à différents clients, soit en hypermarché, soit en fabricant de soupe, parce que les légumes moches sont comestibles. Ils sont vendus moins cher sur les étals. C'est pareil chez les fondeurs de puces, CPU, GPU, APU, DSP, FPGA, microcontrôleurs et baseband. Sauf que ces puces déclassées ne sont pas revendues sous d'autres références par le fondeur, genre TSMC, mais par le designer de la puce, ici, AMD. Leur concurrent direct sur le marché du PC, Intel, pratique lui aussi intensément le CPU binding. Les cores i3 et i5 sont des rebuts de cores i7 et i9 qui n'ont pas tous les petits cores fonctionnels ou n'étaient pas susceptibles de tourner à pleine vitesse. Sur un wafer pour la puce ultra haut de gamme d'Intel i9-10900, équipé de 10 cores à 3,7 GHz, Intel va trier les puces sortantes en 19 références. La plus basse étant la i5-10400T, n'affichant que 6 cores à 2 GHz. Sauf que des fois, la demande en i5 est plus forte qu'en i9. Et donc, le constructeur bride par firmware les puces ultra performantes juste pour écouler les stocks. Il est possible par overclock ou en reflashant des firmware de voir si ces cores sont effectivement défectueux. Il y en a qui ont eu de belles surprises. Même pour des puces ultra spécifiques comme l'APU Ariel que Sony a commandé à AMD comme cœur de sa PS5, Sony n'achète pas les puces sous-qualifiées et refuse qu'elles soient vendues en grand public, ce qui pourrait faciliter le piratage de titres de jeux AAA. Donc, AMD peut les revendre, mais vers un public ultra professionnel et de niche, sur des cartes mères prototypes ou des cartes format serveur de marque ASRock. AMD monte donc ses puces déclassées sur des petites cartes mères de PC qui s'en fichent dans une carte châssis 19 pouces de fond de panier, assurant l'alimentation électrique des cartes en fichier. On appelle ce format des Blade, et c'est un format prévu pour des serveurs de data center à haute densité. Celles basées sur l'APU de la PlayStation 5 ont été commercialisées sous cette fameuse référence ASRock BC250. Et à quoi pouvaient servir en 2020 ces Blade avec un tel GPU ultra performant? À miner des crypto-monnaies. Tout plein. Sauf qu'entre-temps, les crypto-monnaies ont changé leur méthode de calcul de preuve, qui était ultra énergivore, et justifié de s'équiper à très cher et de griller l'électricité à tout va pour en forger. Heureusement, la crypto-monnaie ne se forge plus comme ça de nos jours. C'est un petit peu mieux, même si le principe reste scandaleux écologiquement. De plus, depuis 2021, la Chine, où sont basés la plupart de ses data centers, a décidé de s'attaquer aux opérateurs de crypto-monnaie. La plupart ont pris peur et ont eu moins de 3 mois pour démonter leurs installations. La Chine possède toujours 17% des serveurs de crypto-minage. Mais ces coups de filet des autorités font que le matos a tendance à être très vite exporté ou dispersé par petits lots. Et que deviennent ces blades? Ils ont été refourgués sur le marché de l'occasion, à des tarifs bien en dessous de 150 €, ce qui, pour un PC de gamer haut de game il y a 6 ans, reste d'un excellent rapport qualité-prix, notamment grâce aux spéculations sur les pièces neuves. Néanmoins, on a des limites. La carte blade en question n'a pas de boîtier individuel à son format, sauf si vous avez un panier à câbles en 19 pouces pour accueillir une dizaine de blades. Il faut donc lui construire ou adapter un boîtier. La RAM n'est pas extensible, puisqu'incluse dans l'APU. Idem, pas de prise bus pour ajouter une autre carte vidéo ou autre. Les seules extensions disponibles sont la prise pour mettre un SSD M2 NVMe et 4 prises USB. Qu'entre Bluetooth et Wi-Fi, leur fonctionnement est aléatoire aussi parce que la carte du Blade n'a pas été prévue pour choper un réseau sans fil dans un data center. Donc l'antenne est très embryonnaire. AMD a mis sur la carte mère des composants comme une prise Ethernet, une DisplayPort et 4 USB. Mais pour construire une carte mère autour d'un APU qui attend plutôt le hardware spécialisé de Sony, AMD a pris des équipements standards de PC jusqu'au BIOS, lequel n'est pas au courant que certaines fonctionnalités ne doivent surtout pas être activées car manquant tout bugué sur la puce. Celui qui veut allumer une de ses blades BC250 doit donc lire très attentivement la doc de la communauté sur GitHub. Comme convenu, tous les corps de l'APU ne sont pas fonctionnels. On a 6 corps MD64 sur les 8 présents, 24 CU RDNA2 en GPU sur les 32, et entre 8 et 16 gigaoctets de RAM DDR6. Ouais, de la DDR6. Une bande passante monstrueuse, car accessible qu'au sein du petit carré de l'APU, mais avec une latence non négligeable. Et surtout, cette mémoire est partagée entre les corps généralistes et les CU de la carte graphique. Et elle chauffe de malade. Pensez à très bien la refroidir. Idem, vous ne la ferez pas tourner sous Windows. Seul Linux a les bons drivers. Vous allez parler, nombre de jeux AAA tournent très bien sous Linux. Seuls quelques jeux ne tournent pas car liés soit des DRM, soit des dispositifs anti-triche très, trop exigeants, indiscrets et objectivement dangereux en termes de sécurité personnelle. Tant pis pour eux. Quant au GPU, il lui manque le firmware spécifique écrit par Sony, notamment pour la lecture vidéo prise en charge par le hardware. Cela veut dire que pour vous faire un film en 4K, c'est le CPU qui va surtout tourner, et qu'en plus, les DRM2, par exemple Disney+, vont hurler et empêcher son usage. Mais franchement, même pour une machine bureautique, mettre le prix d'un Raspberry Pi 5 dans une telle carte mère, y ajouter une alim de 400 watts, un bon kit de refroidissement et un SSD, et visser le tout dans un boîtier de récupération retaillé, c'est à la fois pas cher du tout et un exercice marrant. D'ailleurs, le boîtier est souvent réalisé en impression 3D par les passionnés, on en trouve même sur le bon coin. La doc communautaire officieuse de la conversion du BC250 en PC gaming sous Linux est passionnante à lire et indique toutes les choses trappes. Vous aurez besoin d'un minimum de compétences en administration d'un PC sous Linux, en plus du sens de la bricole d'un assembleur de PC. Le seul problème que vous aurez, c'est que vous récupérez une carte mère d'une puce extrême qui n'a pas été qualifiée premium et qui entre-temps a tourné quelque temps à pleine puissance chez des crypto-mineurs et peut-être aussi chez d'autres amateurs pas très délicats. Mais à moins de 200 euros, c'est peut-être un plan très intéressant. Alors vous allez me dire qu'entre-temps, Sony a sorti la PlayStation 5 Pro qui a de meilleures performances. Donc, logiquement, son APU déclassé doit se retrouver quelque part à prix cassé. Eh ben, pas encore à ce jour. À notre connaissance, ce stock doit forcément exister. Je ne serais pas surpris qu'il y a des malins pour en faire des serveurs, pour des applications IA, genre génération vidéo par LLM, et que donc, on ne les verra pas d'ici demain.
FMR 89.1, corrosif.
Mon service web pue du bec, il se fait vieux, ses objectifs prennent la poussière.
Tout ça, c'est fini avec...
IA Matic !
De l'IA dans votre service web, quel qu'il soit. Plus fort que la blockchain, plus fort que les NFT...
IA Matic !
Par la magie de l'IA, vous faites croire que la nouvelle fonction était attendue par vos utilisateurs. Sa fréquentation va radicalement évoluer. Nouvelle fonction pour vraiment pas cher pour commencer.
IA Matic !
Et votre site respire le moderne.
Emergencies, lack of cliche, antiquated honesty, nothing new to say, nothing to describe.
said it before. It's easy writing down some fighting words.
Fighting Words avec Bright White Lightning et Dub Mood avec Goto 80 au chant et Master Boot Record. Bande son de la démo Razor 1911 qui revient sur les 40 années d'activité du groupe de Razor 1911. Vous l'avez compris, par l'évolution musicale, on passait des origines sur Commodore 64 à l'Amiga, au BBS et au PC. Une démo pleine de nostalgie avec un nombre phénoménal de scènes et de graphismes revenant sur leur démo. Il ne faut pas oublier les crack-throws du groupe. Et en plus, un gros travail de documentation. La démo a littéralement séduit et emporté les prix démo et du public lors de la révision 2026. Écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre deuxième édition de News pour mai avec l'ensemble de la rédaction Benoît et Daskritch.
Tu pouvais frapper moins fort.
Le poids des mots, le choc des typos. Dommage pour ceux qui encodaient encore en H264, mais depuis Final Cut Pro X, les pros de la vidéo savent qu'Apple n'est pas leur ami. Le vénérable encodeur vidéo du standard vidéo MPEG-4 n'est plus disponible chez Apple. Techniquement, vu que le brevet vient d'expirer, ce n'est pas une question de sous, mais peut-être lié au fait que Disney ne va plus produire de support Blu-ray. Ouais, cherchez pas Apple.
Les dispositifs d'accessibilité sur macOS sont-ils devenus inutilisables ? VoiceOver, qui permet de naviguer et lire ce qui est sur l'écran, est de plus en plus bogué depuis 10 ans, et les bugs remontés à Apple sont superbement ignorés as usual. Philippe Brun, alias Oxitude, tente de sensibiliser à la situation via une lettre ouverte. Et encore, il est gentil, il n'a pas rappelé dans sa missive qu'Apple a des obligations légales d'accessibilité.
Depuis le début de la restauration du Grand Palais à Paris en 2020, le Palais de la Découverte est fermé sans explication malgré la fin des travaux. La communauté scientifique s'est mobilisée et le Palais de la Découverte devrait réouvrir en 2027. C'était pas gagné car il semble que le gouvernement souhaitait jouer sur la lassitude pour en faire l'économie. Parce que, hein, après tout, la science est vraiment utile quand on a... les formulaires CERFA.
EuroOffice est une tentative de fork de la suite auto-hébergée OnlyOffice par Nextcloud, Proton et Ionos. OnlyOffice se base sur le format OOXML de Microsoft au lieu de l'ODF, Open Document Foundation. De plus, l'éditeur est russe, ce qui pose un gros souci pour l'Union Européenne. Mais la vacherie tient dans la licence AGPL choisie par l'éditeur OnlyOffice. Cette licence permet d'ajouter des conditions particulières au fork. Et donc OnlyOffice autorise les forks sous deux conditions très particulières. 1. L'obligation de conserver le logo, et 2. L'interdiction d'utiliser la marque déposée, interdisant de fait tout fork d'OnlyOffice. Ouais, open washing, autant ne pas dire que c'est du logiciel libre.
Un satellite de Starlink a été percuté par un débris spatial, devenant lui-même un danger pour d'autres satellites. Avec l'explosion du nombre de satellites en orbite, le problème devient de plus en plus inquiétant. Une collision dans l'espace n'est pas drôle. Avec la multiplication de débris, on pourrait même arriver à rendre impossible tout lancement de satellites. La raison ? Manque de coordination. Un récent lancement chinois a manqué de percuter un satellite. Et les règles internationales en cas de risque de collision entre deux engins guidables ne sont pas établies, contrairement aux avions. En cas de collision, il y a toujours le constat à l'amiable et la responsabilité du pays où est immatriculé le navire. Mais je suis pas sûr qu'Elon Musk ait pensé à assurer sa flotte. Pas trop son style.
Bull, la filiale supercalculateur d'Atos, a été rachetée par l'État français. C'est pas eux aussi qui avaient repris les activités d'Amesis, la fameuse boîte d'espionnage numérique qui a bossé pour Kadhafi à la demande de Sarkozy ? Une bien belle réussite française.
Quelle indignité ! Atos, toujours, depuis un mois, l'ESN se paie une pub sur les grandes radios françaises avec une grosse voix qui dit
Impossible n'est pas forcé. Et l'IA, c'est nous.
Alors, comment dire? Je sais que les scénaristes des comédies françaises avaient du mal à se recaser, mais quand même.
Annoncé comme un carburant propre et pouvant être très vite rechargé, l'hydrogène dans les véhicules semblait séduisant malgré ses pitoyables 25% de rendement effectif et surtout son extraction depuis des carburants fossiles. 10 ans après, on arrive à la fin piteuse d'un rêve, pourtant parfaitement prévisible. Epsilon raconte comment les gouvernements européens y ont cru et comment la réalité a fait caler son démarrage.
15 ans après avoir pris la succession de Steve Jobs, Tim Cook quitte la direction d'Apple et devient président. Bilan de ligne, prof franchement nouveau matos avec lui, mais Apple Plus et un quadruplement du chiffre d'affaires.
Un peu rude.
Ouais, mais c'est pour ça qu'on est écouté.
Des nouveaux, l'un des DRM de jeu des plus intrusifs et très 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 indiscrets sur la vie privée des utilisateurs est tombé. Ce DRM très controversé, qui va jusqu'à modifier le cœur de Windows, est finalement craqué au bout de 10 ans. 10 années pendant lesquelles il a quand même efficacement réduit le piratage des jeux AAA. D'ailleurs, faites attention, pour faire tourner ces jeux craqués, vous devez abandonner nombre de mesures de sécurité de Windows. Déjà qu'elles sont dérisoires.
Mr. Who's the Boss et Marquis Brownlee, YouTuber Tech Test, démontent le langage marketing des grosses boîtes. Mots avalés dans les présentations, up to unité qui n'existe pas, performance théorique, voire fantasmée. C'est passionnant, surtout venant de deux très gros YouTubers qui font des collaborations avec des marques. Mais là, ils lâchent tout.
Emballement général au moment d'une défiance généralisée envers les entreprises américaines. La DINUM annonce migrer une partie de son parc informatique hors de Windows, et tout le monde a cru que l'annonce concernait toute l'administration française. Ça fait 25 ans qu'il tente, il n'y a que la gendarmerie qui est arrivée.
Oui, mon colonel.
Le site de l'ANTS, l'administration en charge des papiers d'identité, passeport et permis de conduire, a été victime d'une grave fuite de données concernant 11 millions de citoyens français. La faille était vraiment du niveau d'un débutant je m'en foutiste. Elle permettait d'accéder à n'importe quel dossier en changeant dans l'URL un paramètre numérique pour voir non plus votre dossier, mais celui d'une autre personne. Absence d'un test élémentaire évident, usage d'une primary key numérique au lieu du UID V7, pas de peer review, pas de contrôle effectué par un senior, pas d'audit sécurité par un tiers, une faille type IDOR, accès indu à des infos sensibles, faute d'un minimum de sécurisation dans l'API qui a mis dans la nature les infos de 11,7 millions de Français. Comme le dit le gamin de 15 ans qui s'est bêtement fait choper par la patrouille en revendant les données, c'était une faille vraiment stupide. C'est marrant, hein. Quand l'État est en faute sur la sécurisation informatique, il n'y a jamais d'amende, ni de tirage de bretelles. J'espère que l'équipe qui a codé pour le ministère de l'Intérieur un site aussi sensible avec une telle bourde va voir tous leurs projets livrés à ce jour se faire violemment auditer. Sérieux, c'est exactement le genre de conneries qu'on ne fait plus après 2 années d'expérience professionnelle dans la programmation de sites web. Alors, conseil de professionnel à professionnel, il y a des reconversions possibles dans l'élevage de caprins sur France Travail.
Ça va, t'es calmé? Bon. Maintenant que t'as vidé ton fiel, tu sais que quand t'as rempli ton pré-dossier de demande, tu dois réserver un créneau en mairie.
Ah. Merde!
Oui, pour fêter la réélection de Moudinque, il y a quelqu'un qui a vidé la base des rendez-vous.
Réécrire cette réplique en casant une blague avec le mot Capitole à flûte, totalement loupé. Enchaînons.
Retrouvez les plus belles fuites de l'administration française sur francefuite.com, le premier portail de transparence totale pour vos données personnelles garanties par l'État.
Et mais j'ai pas lancé les pubs, là.
Non, je terminais la news précédente.
Ah, ouf. La vérification d'âge pour accéder aux réseaux sociaux marche parfaitement. Point de vue éducation, c'est une merveille. 25% des élèves britanniques en primaire se sont déjà dessiné une moustache pour se connecter avec succès sur un réseau social en tant qu'adulte. Monty Python's not dead.
Indeed. Nous avions fait une émission sur les réseaux sociaux professionnels et nous avons oublié d'alourdir le dossier LinkedIn par l'incroyable intrusivité de son site web et de ses applis en toute illégalité en Europe. Les données remontées sont ultra indiscrètes. Le site browsergate.eu réunit des citoyens européens qui souhaitent porter plainte.
LinkedIn toujours. Pour savoir qui consulte votre profil, vous devez passer par un abonnement payant. Figurez-vous que c'est de la revente de données personnelles. Et l'article 15 du RGPD l'interdit strictement. Dépôt de plainte a été fait par l'asso NOYB. Préparez le popcorn.
Le TLD de l'Allemagne, .de, en panne le 6 mai à cause d'une chaîne DNSSEC mal configurée. Site web, email, tout service en nom de domaine se terminant en .de s'est effondré. Le DENIC, l'organisme qui gère le nom de domaine .de, le sentait venir. Ils ont annoncé une période de maintenance pour ce jour-là. Deutsche Qualität!
Je l'ai comprise!
Tu vois que tu peux écrire une blague en allemand?
Toutes les sources sont sur la page web des news de cette release cpu.pm/243. Les informations reviennent dans l'émission CPU prochainement. À côté du site labricoletoulousaine.fr, un nouvel agenda collaboratif dédié au monde IT vient de se monter. Le site toulouse-tech-hub.fr, porté par un collectif très œcuménique. Pour nous le présenter, nous recevons par satellite Thomas Bollon qui anime ce nouveau service.
CPU carré petit utile.
Thomas, bonjour. Que trouve-t-on sur le site toulouse-tech-hub.fr?
Alors, on y retrouve les communautés bénévoles autour de l'informatique et du numérique, avec les liens vers leur site, les réseaux sociaux et surtout un agenda des prochains événements qu'ils organisent en fait.
On a une chance d'avoir une vie assez riche quand même sur Toulouse, et c'est vrai que c'est remonté après le grand trou qu'on a eu suite à la période de l'épidémie du Covid. Quels sujets peuvent entrer dans cet agenda?
Alors, tous les événements autour du numérique et de l'informatique, organisés, on va dire, par des bénévoles ou des groupes à but non lucratif, on va dire, sur Toulouse et ou sur la périphérie, toute proche, hein, bien sûr, hein, les voisins sont les bienvenus.
Voisins jusqu'où? Pas jusqu'à Montpellier, quand même, ça, en province.
Non, pas jusqu'à... Bon, c'est des Occitans, quand même, aussi, donc... Ça marcherait peut-être, mais ils ont déjà une initiative un peu pareille à Montpellier aussi.
Et ils ont vraiment un écosystème très très riche avec des très belles boîtes aussi là-bas. Quelle différence avec l'agenda de la bricole toulousaine dont on a déjà parlé dans notre émission?
Ouais, on va dire que c'est plus orienté logiciel et informatique, même s'il y a une communauté embedded Linux. C'est plus orienté, voilà, sur les développeurs autour du logiciel, on va dire. C'est aussi peut-être un peu plus orienté communauté, dans le sens où les communautés existent, c'est des communautés qui existent, et le but, c'est un peu de les mettre en avant, en fait, via cette espèce d'annuaire.
Il y a aussi autre chose, c'est que vraiment, vous avez eu envie de... Vraiment, le premier événement que vous avez fait, c'était une réunion intercommunauté, où il y avait... on était combien? On était une cinquantaine, hein, je crois, dans le bar.
Ouais. C'est ça. Ouais, le but, c'est un peu que les communautés se rencontrent, en fait. De montrer cette espèce de... Je suis un peu nostalgique des web rings. Tu vois, cette espèce de... On est chacun dans son coin, en fait, et on s'aide les uns les autres en relayant des liens vers les différents sites. Donc, c'était un peu ça, en fait.
Et pour mettre les limites, qu'est-ce qu'on ne trouvera pas sur Toulouse Tech Hub? Un commercial en WinDev?
Ouais, c'est ça. Non, le commercial ou non du WinDev, pourquoi pas. C'est en fait le but, c'est d'écarter toute la partie commerciale, c'est-à-dire que organisée par des entreprises, ça reste quelque chose qui est géré que par des bénévoles sur leur temps libre. Et le but, c'est qu'on travaille pas pour des sociétés qui peuvent se payer des moyens de communication, en fait. Donc voilà, avec nos faibles moyens, on se contente d'aider ceux qui, comme nous, galèrent pour essayer de faire vivre des événements gratuits, en fait.
Donc en clair, on pourrait trouver, je ne sais pas, une formation bénévole, un atelier sur l'UA, mais pas une formation montée par une entreprise qui est spécialisée dans les formations.
C'est ça. On respecte tout à fait le sponsoring qui est nécessaire pour faire vivre des communautés et tout ça, mais il ne faut pas que ça passe devant, en fait. Il ne faut pas que ça soit le moteur. Il faut que ça soit un sponsor derrière une organisation qui, elle, est gérée par des gens où, clairement, il y a du bénévolat ou du non lucratif qui se voit.
Mais pourquoi monter une structure et un petit site web, alors que ça demande quand même un petit peu de temps, alors qu'il y a des grandes plateformes de rendez-vous d'afterwork? Est-ce que vous n'auriez pas un petit anti-américanisme primaire?
Un peu, ouais. Il y a un peu de ça, il y a un peu de retour aux sources aussi, pour se dire, finalement, les sites web, on était tous capables d'en faire avant, c'est finalement de l'HTML, des pages web. Donc c'était un peu revenir sur un truc basique, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas forcément besoin de gros outils et de grosses plateformes, etc. J'avoue que j'ai découvert aussi des plateformes après coup, Open Agenda ou ce genre de choses. Mais le but aussi, c'était de laisser les communautés là où elles sont, chacune dans leur coin, à s'organiser, à avoir déjà leur agenda sur la plateforme qu'elles souhaitent. Là, le but, c'est vraiment de créer cette espèce de mini annuaire agenda. Pas forcément besoin de s'appuyer sur un outil. Et je trouvais pas forcément d'outils qui correspondent à ça non plus, tu vois.
Actuellement, d'ailleurs, c'est basé sur un repo Git qui est actuellement chez GitHub. Donc, ça veut dire que c'est plutôt facile, justement, d'intervenir si on est développeur.
Ouais, et même limite, le but, c'était vraiment que ça soit pas chronophage, quoi. Donc, c'est ça. Tu crées une issue et c'est du Jekyll derrière. Donc, c'est un outil fait en Ruby, mais qui génère un site statique, en fait. Donc, c'est uniquement des pages HTML. Donc, c'est très facile de personnaliser, de faire entrer des trucs qui rentreraient pas normalement. Enfin, c'est, voilà. Et très simple.
Et puis au moins, ça ne vous demandera pas votre identité si vous voulez consulter des événements et tout ça. Ça change. Je trouve super lisible d'ailleurs l'ensemble du calendrier. C'est vraiment extrêmement agréable. Qu'est-ce qu'il manque actuellement au site toulousetechhub.fr et qui n'a besoin que de bonne volonté?
Alors, on va dire un vrai design graphique peut-être, parce que là, je me suis contenté vraiment de faire quelque chose. Alors, c'est peut-être une force aussi, mais vraiment d'un truc hyper simple en utilisant une librairie Bootstrap de base avec un petit peu d'IA pour essayer de faire quelques effets jolis. Mais voilà, peut-être que ça mériterait d'avoir un peu plus une touche graphique en gardant cet aspect vraiment simple, rapide à charger et basique qui va aux fonctionnalités. On aurait aimé aussi expérimenter une newsletter, peut-être, pour offrir une alternative au flux d'informations complètement bouché sur LinkedIn et tous les réseaux sociaux et tout ça, où on se fait inonder, pour que les gens qui veulent vraiment ce canal qui fonctionne très bien, qui est le mail quand même, les gens puissent dire « je veux être prévenu quand il y a un nouvel événement sur certaines communes, par exemple ». Mais bon, ça demande du travail. Comme je voulais quelque chose qui soit absolument pas chronophage, là, je commence à mettre le doigt dans quelque chose où je suis pas sûr qu'on soit capable de l'assumer, donc à voir. Un truc qui serait intéressant aussi, c'est un relais avec les écoles. On a beaucoup l'occasion d'échanger avec
école des écoles primaires ou écoles sup.
Alors primaire, ça serait plus de boulot, je pense. Mais ouais, les écoles d'ingé informatique et tout, qui souvent cherchent, adoreraient faire sortir leurs étudiants de leur vie scolaire et commencent. Ça serait une super opportunité pour eux de commencer à croiser du milieu pro. Et donc, on aimerait bien aller vers les écoles pour leur dire, pour info, vous pouvez relayer cet événement ou vous-même vous en servir en tant que responsable d'étudiants pour leur dire qu'il se passe des trucs sur Toulouse pour sortir un peu de leur bulle, quoi.
Ou même si les étudiants veulent justement créer une nouvelle communauté, ou quand les écoles en question hébergent des événements dans leurs locaux.
Carrément. Ouais. Ça se fait.
Ce qui arrive souvent. Comment participer?
C'est tout simple. Si vous avez une idée ou n'importe quoi, comme tu disais tout à l'heure, le site du code source, on peut créer une issue en deux clics. Je réagis assez rapidement et s'il faut basculer par mail, je le ferai sans problème. Mais en fait, c'est vrai que je devrais rajouter tout simplement mon mail sur le site. C'est quelque chose que je ferai, mais voilà, donc n'importe qui entend par rapport à ce que j'ai dit juste avant, comme quoi il pourrait filer un coup de main, ce sera avec plaisir. Ou qui organise des choses et qui souhaiterait qu'on en parle, quoi.
Quels sont les événements du mois de juin que tu aimerais mettre en avant en profitant lâchement de mon micro ouvert? Attends, jingle.
C'est l'heure de l'agenda de la bricole toulousaine.
L'agenda vous est présenté par Thomas avec le site toulouse-tech-hub.fr.
Alors, il y a déjà pas mal d'événements qui se bousculent pour juin. On sent que les grandes vacances arrivent. Il y en a deux en particulier. Il y en a un, c'est un événement sur l'IA. Donc, bon, rien de nouveau, on va dire, par rapport à tout ce qui se fait. Mais c'est surtout que c'est le tout nouveau groupe Mobile User Group qui s'est monté en début d'année, qui est super actif. C'est leur troisième événement. Donc, voilà, je pense que c'est une équipe super motivée qui démarre un meet-up. Donc, c'est intéressant d'aller les voir. Et une autre super initiative à l'attention des femmes pour favoriser l'implication dans les événements du numérique. C'est un tremplin pour conférencières qui permettra ensuite à la gagnante de speaker au DevFest Toulouse qui aura lieu en novembre prochain. Donc, c'est TechSpeaker qui organise ça et donc j'invite toutes les personnes intéressées à aller voir ce que ça donne.
Et on les recevra très prochainement. Je rajouterai les PG Day France qui auront lieu à Météo France, d'ailleurs, chouette écrin. Ce sera début juin. Et pour être complet, l'association Nothing to Hide organise son festival décentralisé sur la sécurité, la vie privée et le journalisme. Accès gratuit un peu partout en France et en ligne ce week-end du 27 au 30 mai. À Toulouse, c'est le Theta Lab qui en sera le relais le samedi 30 mai après-midi de 14h à 18h. Au Topic 96 bis rue Bourbaki, métro Nougaro Minime. Thomas, merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX0243, Lost and Found, mai 2026. Cette release, l'équipe est composée de Daskitch, Benoît, Gabriel et Enflammé. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Nous remercions infiniment le donateur qui tient à rester anonyme, qui a permis le renouvellement d'un équipement défaillant. Merci aussi à Benoît qui a tenté de le réparer et à Infested Grunt pour le prématériel. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/243. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h et nous serons à la THCon. Et si vous nous suivez sur Radio FMR le jeudi en direct, il est midi, nous retrouvons Monique Blanquet qui, en ce joli mois de mai, a sûrement plein de belles représentations fleuries et de très belles occasions de sortie à nous proposer. Radio FMR à Toulouse sur 89.1 FM, en DAB+ et en stream sur Internet.